Bien, alors, bonsoir. Donc, si vous voulez, d'abord, j'ai deux questions. Merci. J'ai deux questions qui reviennent au même d'où je parle. Alors, donc, je vais donner deux ou trois lignes de mon CV, si vous voulez bien. Donc, c'est une longue histoire, bien sûr. Et le premier diplôme d'importance que j'ai obtenu, c'est le BEIAC, si je me rappelle bien. C'est-à-dire le brevet industriel d'être chimiste, qui m'a permis de rentrer illico à Rhône-Poulenc. Voilà, donc j'ai fait un stage de, on va dire, 3 ans, très facilement à cette époque, la belle époque de la chimie triomphante. Et puis, travailler dans les polymères et les plastiques, pour pouvoir parler français, c'était quand même pas le pied, quoi. Donc, m'est venue l'idée de faire de la biochimie. Et sous couvert de biochimie, j'ai préparé l'examen spécial d'entrée en fac de sciences. J'avais pas le bac, donc je l'ai réussi. Et là, se posait la question, MGP, MPC ou SPCN à l'époque. Propé, quoi, en gros. Bon, MGP, c'était pas la peine, hein, maths générales et physique, quoi, c'était pas la peine d'y penser. MPC, ma foi, bon, why not? Et puis finalement, le programme de SPCN, c'est-à-dire, ça s'appelait le PCB, c'était la même chose, quoi, hein, c'est-à-dire, on était dans les amphis à côté, c'est-à-dire, la première année de médecine, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire, donc j'ai fait SPCN, voilà. Et à la fin de SPCN, donc, je pouvais rentrer en deuxième année de médecine. Et connement, je ne l'ai pas fait. Pour une raison, pour beaucoup de raisons, mais la toute première, c'est que j'ai horreur du sang. Donc, j'aime pas quand ça pisse le sang. Je me voyais mal en train de clamper des artères et tout ça. Voilà. Donc là, je dis, bon, bah, allez, biologie. Voilà. Et puis là, je me suis pris au jeu alors de la physiologie. Et puis, dans la physiologie, c'était plutôt la neurophysiologie. Et puis même, à la pointe de la neurophysiologie, c'est la psychophysiologie. Voilà. Donc, je suis rentré. Donc, sitôt, 2 ans après ma SPCN, je suis rentré dans un labo de psychophysiologie. Et là, l'équipe faisait psychologie animale et comparée. C'est-à-dire, la psychologie animale et la psychologie humaine, en gros. Et le public qu'il fallait enseigner, c'était les étudiants en psycho. Voilà. Donc, dès 67, je suis devenu, contre mon gré, enseignant-chercheur de psychophysiologie, c'est-à-dire enseignant-chercheur des étudiants de psychologie de Lyon. À l'époque, c'était la fac de lettres. C'est devenu par la suite Lyon 2. Voilà. Alors, très peu de temps après, j'ai passé ma thèse sur le sommeil et le stress, voilà, avec dans mon jury Michel Jouvet. Voilà, j'ai parlé du sommeil l'année dernière, et donc, bon, en gros, vous devez savoir 2 ou 3 choses de ce que j'en ai glané. Et bien entendu, tous les chercheurs qui ont travaillé dans le sommeil, leurs crédits se sont plus ou moins épuisés, et tous, presque sans exception, à part un ou deux, ont mal tourné, c'est-à-dire ont commencé à s'intéresser à une partie particulière des neurosciences qu'on appelait les cognitions, les sciences cognitives. Voilà. Alors, Jeanne Roux, qui était un élève de Jouvet, est peut-être un des meilleurs exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. Et j'ai un petit peu suivi ça, mais quand même pas tout à fait, parce que j'étais quand même plus freudien que cognitiviste. Donc là, bon, à l'époque, à cette belle époque, si on voulait être à peu près sérieux, il fallait faire une analyse. Donc voilà, j'ai fait un petit stage sur Divan. Voilà. Et puis, bah, à l'issue de ce stage, Dieu dit, maintenant que j'ai les idées plus claires, je peux peut-être voir la théorie. Donc, j'ai commencé psycho. Voilà. Et puis, pour différentes raisons, il a fallu que j'abrège ma maîtrise, et donc je suis resté avec un petit trognon de maîtrise qui restait, et donc j'ai continué d'enseigner les neurosciences à tout public, en sciences et en médecine, et même à trois reprises à Normale Sup, pour ceux qui veulent avoir plus de détails. C'était assez intéressant, mais quand même, j'ai quand même eu deux questions idiotes. Alors, voilà, comme quoi il n'y a pas de complexe à avoir. Et puis, bon, bah, j'ai travaillé sur les émotions, les mimiques faciales, surtout, je suis devenu un des spécialistes du codage des mimiques faciales, puis sur l'olfaction humaine. Plus précisément, la relation entre l'olfaction et les émotions. Et dans les mimiques faciales, ce qui m'a peut-être le plus captivé, c'est les mouvements des yeux. Et ce mouvement des yeux, ça paraît tout bête, mais ça a une signification extraordinaire parce que c'est un marqueur de l'accès à la mémoire. Or, il se trouve que quand on travaille sur le sommeil, bien sûr, forcément à Lyon en tout cas, on s'intéresse au sommeil paradoxal. Et une des caractéristiques du sommeil paradoxal, c'est justement les mouvements des yeux. Alors là, la jonction était faite. Et la question que Michel Jouvet et son équipe se posaient pendant 20 ans, m'a semblé que je l'ai résolue en deux coups de cuillère à peau, en prenant tout à fait simplement. Il n'y a pas de difficulté majeure. Et assez récemment, a été mise au point une thérapie basée sur les mouvements des yeux et qui a l'air, apparemment, d'après l'initiatrice Shapiro, d'une grande efficacité dans les situations de stress extrême. Voilà. Je ne sais pas par quel mystère le fait de faire les mouvements des yeux réactive les souvenirs, mais bon, d'après ma théorie, en tout cas, c'est simple comme bonjour pour l'expliquer. Voilà, j'ai bouclé pas mal de choses. Alors, un beau jour, l'université a décidé qu'il m'avait assez vu, pour cause de limite d'âge. Alors, quand les bornes sont passées, il n'y a plus de limite, comme vous savez. Donc, le lendemain, j'ai rendu ma blouse, j'ai dit, tiens, je vais finir le trognon qui me reste en psycho. Voilà, et donc je me suis inscrit, donc je me suis retrouvé dans les amphis où j'enseignais, mais de l'autre côté, quoi, voilà, avec les profs qui étaient mes collègues et mes anciens étudiants, au passage, mais bon. Voilà, et donc au mois de juin, j'ai réussi le Master 1 de psychologie clinique et psychopatho. Voilà, et puis là je suis en stand-by pour préparer le concours de M2, du même intitulé, et voilà, bon, alors, je m'amuse avec un certain nombre de stages. Donc là, je vais commencer la semaine prochaine en gériatrie, c'est-à-dire avec les personnes âgées, et même Alzheimer débutant, si j'ose dire. Voilà, en gros, la trajectoire. Donc, bien entendu, quand je parle de notre sujet, c'est bien sûr à remettre en perspective par rapport à ce que je vous ai déjà dit précédemment, c'est-à-dire mon point de vue, c'est les neurosciences. Ce n'est pas du tout d'aller critiquer la médecine. Mais il se trouve que, là encore, je crois qu'un certain nombre de bornes ont été dépassées dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres et que, sous le feu de vos questions, bien entendu, on trouve vite les limites. Donc voilà un petit peu pourquoi parfois on peut-être avoir l'impression que ça dérive, mais pas du tout, c'est un principe général. J'essaye de répondre aux questions avec honnêteté, quoi. Donc, si vous me demandez mon avis, je le donne, quoi. Mais c'est des choses qu'il ne faut pas dire, quoi, bien sûr. Mais on va retrouver ça sans arrêt, donc ne faites pas de soucis. Donc, l'idée, c'était, la première année, d'essayer de voir les structures du cerveau, si vous vous rappelez bien. Et puis, l'année suivante, en tout cas l'année dernière, c'était d'essayer de voir une fonction particulière, ou deux ou trois fonctions particulières, qui étaient quelques états de conscience, l'éveil, le sommeil et le rêve. Alors, je fais un petit tour rapide de ces questions pour que vous puissiez expérimenter sur vous-même. Et puis, j'ai éprouvé le besoin d'aller un peu plus loin dans l'étude des états de conscience, c'est-à-dire, bon, c'est un petit peu du cognitivisme, hein, forcément, hein, c'est-à-dire comment j'accède à la connaissance du monde, mais aussi à la connaissance de moi-même, et puis, au passage, à la connaissance d'autrui. Hein, c'est toujours la même chose. Et que la psychopharmaco est une façon de répondre de façon très ponctuelle à des états de conscience très particuliers et qui sont bien sûr à peu près en phase avec les bouleversements qu'il peut y avoir à l'intérieur du cerveau. Enfin, c'est ça qui va vous tout le temps vous peut-être vous heurter, mais enfin je vais essayer d'agiter sous votre nez, c'est un petit peu le parallélisme du fonctionnement cérébral et puisque c'est la psychopharmaco, c'est bien entendu de la pharmacologie, c'est-à-dire de la chimie, et qui dit chimie dans le cerveau, ben dit les neuromédiateurs, quoi, les neurotransmetteurs, quoi, en gros. Hein. Alors on les a vus précédemment, mais on va les reprendre sous un autre angle. Et puis, ben, les états mentaux qui vont de pair. Alors, je vous l'ai dit, je crois, la semaine dernière, c'est un peu indécidable. Qu'est-ce qui est premier, l'œuf ou la poule? C'est-à-dire, est-ce que c'est le dysfonctionnement du cerveau qui entraîne des états de conscience différents, ou bien c'est des états de conscience différents qui entraînent des perturbations du cerveau. Ben voilà. Pour moi, du fait que j'ai les deux approches, neurosciences et puis psycho, je m'abstiens d'être trop ferme sur telle ou telle direction. Mais donc il faut douter, mais des moments, c'est quand même difficile de douter, quoi, hein, quand même. Chasser le naturel, il revient au galop, et donc pour un certain nombre de maladies mentales, je pense à une question qui a eu lieu la semaine dernière, c'est quand même un peu difficile de penser que l'enfant a été regardé de travers par sa mère, quoi. Il n'y a pas de doute qu'il y a quelque chose du côté du cerveau qui a subi une catastrophe, très probablement. Je pense à l'autisme ou à la psychose. Il y a un certain nombre d'hypothèses, mais pour le moment, on n'a pas de certitude que quand même, on peut trouver des points d'ancrage du dysfonctionnement du cerveau qui entraîneraient des troubles mentaux, et si on va un petit peu plus loin, cognitifs, et ça, on peut le suivre grâce à l'imagerie cérébrale. En gros, pour faire très très simple, en prenant des pincettes, bien entendu, en n'étant pas dupe que même l'imagerie mentale, c'est jamais qu'une représentation de représentation de représentation, hein, c'est au quatrième degré au moins, que, bon, on n'a pas encore. Mais enfin, quand même, bon, il y a quand même un ensemble d'éléments qui sont quand même très convergents, quoi, voilà. Et donc, ben, on verra ça, donc, au fur et à mesure. Zarifian, par exemple, dit, ben, si on va jusqu'au bout de cette logique, il n'y aura plus de maladies mentales, il n'y aura plus que des maladies neurologiques. Voilà, c'est ça qui explique la semaine dernière, voilà, on a parlé de neuropsychiatrie, puis ensuite clivage entre les deux disciplines, neurologie d'une part, et puis psychiatrie d'autre part. Et peut-être que dans un temps futur, elles vont reconverger, quoi. Un peu comme le Big Bang là, dans l'univers. Hein. On sait qu'il y a eu un Big Bang, mais peut-être il y en a eu d'autres avant, et puis peut-être qu'il va y en avoir à nouveau, comme s'il y avait des pulsations. Quoi. Bon, c'est pas la même échelle de temps, bien sûr. Bon, voilà, alors, peut-être une dernière information pour ceux qui sont vraiment obsessionnels et qui veulent tout savoir. C'est pas impossible que j'édite un polycope. Alors, ça se présenterait à peu près comme ça pour cette année. C'est 100 pages, et ça doit représenter à peu près 7 euros. Et si vous voulez qu'il soit vraiment plus solide, alors c'est possible de rajouter deux couvertures, alors sinon ça fait 1 euro chaque couverture. Et puis, pour ceux qui veulent vraiment la version luxus, c'est-à-dire pas loin de celle-ci, avec un transparent machin, c'est encore 2 euros de plus. Voilà, mais bon, ça restera la même chose du contenu. Alors, si jamais certains sont intéressés, ben, vous faites un chèque, hein, Daniel Brett, voilà, c'est simple, 7, 9 ou 11, comme vous voulez, c'est comme pour les enterrements, hein. Il y a différentes catégories, mais en fait, c'est toujours la même chose qui se passe, quoi, hein. C'est les asticots qui ont le dernier mot, quoi. Bon, alors, la semaine dernière. Donc, je vous ai donné quelques éléments qui ont peut-être un petit peu, qui vous ont permis de vous représenter un peu comment l'humanité avait fait des expériences, des fois cruelles, et qu'un certain nombre d'humains ont pu recueillir cette expérience et puis la transmettre, et puis que les comportements des humains en général font que il y a des appropriations très faciles entre les groupes, et donc dans l'Antiquité, les guerres ont fait rage, et donc bien entendu, beaucoup de recettes et de connaissances ont été concentrées dans le monde occidental. Voilà. Et puis, des fois, il a fallu aller dans le monde, guerroyer dans le monde oriental, voire même en Amérique pour encore récupérer. Et bien entendu, la bataille n'est pas finie. Il y a encore des gens qui vont piller les Indes ou les Andes, comme on veut, et qui ensuite déposent les brevets. Et les gens qui sont dans la culture, mettons, de l'Inde ou des Andes, doivent payer s'ils veulent utiliser les végétaux qu'ils utilisent depuis des millénaires. Voilà, bon, voilà la stupidité du système, mais bon, il faut le savoir. Alors, je vais vous donner quelques images quand même cette fois, et puis pour un petit peu donner encore quelques idées sur l'évolution de, je n'ose pas dire des médicaments, mais c'est plutôt là, on en était au traitement de choc, et donc c'est à l'impuissance de perspectives de traitement, et puis ensuite je vous raconte l'histoire de la découverte des neuroleptiques. Et alors à ce moment, vous verrez comment le hasard fait des fois bien les choses, mais qu'il n'y a pas de design intelligent dans la recherche. C'est vraiment simplement des chercheurs intelligents qui arrivent à remarquer quelque chose et qui en parlent à leurs copains. Et les copains s'empressent de les appliquer, et puis ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pas, ben on n'en parle plus. Si ça marche, on publie. Voilà, c'est simple. Alors, d'abord quelques images, puisque vous avez été sage. Alors voilà, notre propos, hein, c'est quand même de comprendre cette relation particulière entre un patient qui est là, en train d'agoniser dans son lit finalement, hein, et puis un apothicaire qui est ici, qui fait des potions, et puis ce qu'on appelle un médecin qui vient s'incliner au chevet du patient. Voilà. C'est ça la clinique. Clinicus, et je me penche sur le sujet. Voilà, donc on a ce triangle-là. Et bien entendu, celui qui a le pouvoir, qui avait le pouvoir pendant très très longtemps, c'était lui. Et donc c'est pour ça qu'on appelle cette personne un patient, qui doit être très très patient. Mais ces salauds sont de moins en moins patients, de plus en plus impatients, en un mot. Et celui qui pense avoir encore le pouvoir et qui regimbe, eh bien en fait, il s'est fait déposséder par ceux qui emploient l'apothicaire. Voilà, c'est les groupes pharmaceutiques. Voilà, ce sont alors des grosses machines de guerre, et je n'utilise pas le mot par hasard, c'est les mêmes crusts chimiques qui ont fait les explosifs, les gaz de combat, les pesticides. Ils font aussi l'industrie pharmaceutique. Et donc, c'est pas très facile de faire le malin par rapport à ces machines redoutables. On est donc bien obligé d'en parler un peu. De temps à autre, faire une petite incidente pour détendre l'atmosphère. Bon alors, revenons encore quelques instants aux thérapies de choc. Il y a eu donc pendant deux siècles, des ouvrages de psychiatrie, ou de ce qu'on peut appeler de la psychiatrie, qui essayaient de faire des typologies pour essayer qu'on comprenne un peu les fous, donc, entre guillemets, c'est-à-dire les maladies mentales. Alors, il y en a eu un bon nombre. Je vais vous donner juste deux ou trois qui sont assez explicites. de ce qui se passe. Le premier, c'est finalement un ouvrage d'Esquirol, qui est donc l'élève de Pinel.
Ah oui, quelle folle,
ça rime avec Esquirol. Alors donc, des maladies mentales, 1838. Alors, quand on décrit, c'est vite pénible. Il vaut mieux lire Zola. En fait, c'est la même chose, hein, bien souvent. Hein. Donc, c'est pénible. Alors, bien sûr, les auteurs ont éprouvé le besoin de figurer les patients dont ils parlent. Et là, vous en avez un exemple. Voilà. Bon, une fois que vous avez compris, c'est Esquirol, on peut l'enlever. Alors, bien entendu, vous avez la posture, vous avez les chaises, avec les doigts de pied recroquevillés, et puis surtout, vous avez les mimiques, et vous avez même la tignasse, etc. Alors, ça, c'est un phénomène général. Vous retrouvez, dès que vous faites les bouquinistes, vous retrouverez ça, cette insistance qu'ont les picards à montrer les patients. Voilà, c'est la monstration, hein, en règle générale. Et ça, c'est sous-tendu par une hypothèse. Ce qu'il y a au-dedans s'exprime au-dehors. Et bien entendu, ça peut être vrai, parce qu'effectivement, quand vous arrivez dans un service de psychiatrie le matin, premier coup d'œil, vous voyez déambuler dans le couloir les patients, premier coup d'œil, vous les voyez de face ou de dos, trois quarts, vous savez qu'il y a de l'excitation, que ça va mal ou que ça va bien. C'est vrai, il y a quelque chose qui passe du dedans au dehors, mais quand on va vous faire une morphopsychologie, parce que vous avez le nez comme ça ou les oreilles comme ça, à ce moment, ça aboutit à l'eugénisme. On a payé très cher. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Mais, enfin, dans ces années 1800 et quelques, eh bien, si ce n'est pas l'aliéniste qui fait le dessin, c'est à ce moment un dessinateur qui vient faire les croquis. Et puis, au fur et à mesure qu'apparaît la photo, bien entendu, les photos remplacent les croquis. Voilà. Alors, au passage, là, vous dites que dans les thérapies de choc, pour les grands agités, une des façons de boucler les symptômes, c'était de les ligoter et de leur mettre en camisole de force. Voilà. Bon, il y en a tellement parlé que, bien sûr, c'est pas la peine de trop en rajouter, sauf que bientôt, on va parler des neuroleptiques. Les neuroleptiques ont été appelés la camisole chimique. Mais ça fait référence à ça, hein, au passage, le cachot et tout. Et peut-être une deuxième image. Deuxième image, c'est un ouvrage de Richard. Voilà, 1881, un siècle et quelques, étude clinique de la grande hystérie. Alors, à cette époque, Charcot et les autres s'excitaient beaucoup sur l'hystérie. Et donc, il y a des ouvrages qui sont faits dessus. Alors, voilà, par exemple, une illustration qui pousse le plus loin possible. Je veux dire la diabolisation, hein. Là c'est, on lui donne ce nom, attaque démoniaque, ça dit tout. Pinel, détaché des fous en 1820, eh bien, il se trouve que 60 ans plus tard, on continue encore à utiliser le terme d'attaque démoniaque. Or Pinel disait non, c'est pas le diable qui vient les tourmenter, c'est pas le malin qui est en eux, non, ils sont malades. Dans le monde psychiatrique, on continue à. Alors, bien entendu, comme il y a l'étiquette fou, cette étiquette, c'est indélébile, c'est marqué au feu rouge, et je suis bien tranquille à entendre les réflexions la semaine dernière, on utilisait le mot fou, mais c'était encore très actuel. Quand on ne sait pas comment nommer, on dit fou, voilà. Bien entendu, dans ces conditions, aller consulter un psychologue ou un psychiatre, aller demander à n'importe qui d'aller dans un lieu comme le Vinatier, Saint-Jean-de-Dieu ou n'importe quelle maison de retraite, oulala, remonte à deux siècles avant, quoi, sous Louis XIV, quoi, hein, pour faire simple. Quoi, voilà. Bon, alors, voilà, l'attaque démoniaque, vous la voyez, elle est gratinée. Hein, et on voit la langue fourchue, on voit le bec crochu, on voit les yeux de sorcière. La totale, quoi. Bon, bien sûr. Maintenant, c'est la prostipole, quoi. C'est plus glamour, car on a ça, quoi. Alors, un autre ouvrage qui a fait vraiment beaucoup de bruit, hein, parce qu'il est vraiment très bien, voilà. C'est un auteur, Émile Crépin, allemand. Alors, en mesure, en France, après la guerre de 1870, hein, les Allemands, mais quand même, il est tellement fort, parce que c'est tellement bien expliqué, tellement vraisemblable, que tout le monde se rallie à sa vision, et donc il fait autorité. Et alors, les éditions se succèdent, hein, de la 25 en 1904. C'est là qu'il parle de la maladie d'Alzheimer, qui a été décrite par un de ses élèves, donc Alois Alzheimer. Voilà. Bon, donc, un ouvrage extraordinaire pour son époque, en quelque sorte. Et voilà, par exemple, alors là, voilà, la photo a remplacé les croquis, hein, bien sûr. Donc, au début du siècle précédent, hein, et groupe de catatoniques, c'est-à-dire, bon, ils peuvent être en mouvement, puis à un moment, ils sont figés, comme les statues que vous voyez à bout de l'arrêt, là. Ils sont sur leur socle, là, puis à un moment, tac. Bon, voilà, c'est une catatonie. Et alors, bon, ça parle d'eux-mêmes. Les gestes sont figés. Voilà, bon, on verra ça dans la psychose, si vous voulez. 1904, et puis, pour arriver à l'époque dont on parlait, là, sur les états, les thérapies de choc, un autre auteur célèbre, en France, bien sûr, Baruch, précis de psychiatrie, 1950. Alors, Baruch a une fille qui s'appelle Stella, et qui est assez célèbre, puisqu'elle s'est mis en tête de comprendre pourquoi on n'arrive pas à enseigner facilement les mathématiques. Donc, maintenant, Stella est plus célèbre que son père. Alors, voilà par exemple une image que l'on trouve dans son précis de psychiatrie et qui présente une particularité que l'on va retrouver tout le temps dans la psychopharmaco. 1950, on a, alors je vous le dis, hein, c'est écrit, flexion et enroulement du corps dans la catatonie de Kalbaum. Voilà, donc ce mouvement. Voilà. Et puis, l'auteur fait le rapprochement avec ce qu'on observe dans les labos quand on fait des injections à certaines espèces. Donc, en l'occurrence, on va dire un macaque, pour faire simple. Et les chercheurs remarquent que sensiblement c'est le même type d'enroulement. Voilà. Donc, flexion et enroulement du corps dans la catatonie de Kalbaum et dans la catatonie expérimentale bulbo-capnique chez le singe. Voilà. Donc, alors, peu importe comment on l'obtient, alors, gardez cette idée qu'à partir de 1950, on a de cesse de trouver des modèles d'animaux des maladies mentales. Alors, ça fait vraiment paradoxal, enfin, c'est assez surprenant d'avoir un cerveau aussi complexe que celui de l'humain. Et puis, comme on n'y comprend rien, ben, on cherche chez l'animal qui est 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois moins, plus simple que celui de l'humain. Et comme il y a un petit comportement qui est le même, alors à ce moment, on dit, ben, tiens, peut-être que s'il y a le même comportement, il y a peut-être le même mécanisme. Effectivement, on le fait chez le singe, on le fait chez le chien, bien sûr, chez le chat, au prix de bougies de barbeau, et les autres groupes, Et puis, c'est un peu plus facile quand on le fait sur le rat et sur la souris. À ce moment, tout le monde s'en fout, hein, la vermine fasciste, le rat, alors que ce sont des petites bestioles très attachantes, c'est très intelligent, mais on va de tout la paix, donc du coup, bon. Mais maintenant, avec les comités d'éthique, qui vend 10 000 rats pour une manif, pour un machin comme ça, quand on veut voir trois humains, non, il y en a trois fois trop, et maintenant, il faut réduire. Alors, il y a deux solutions qui ont été trouvées, qui sont exploitées. C'est d'une part, chercher chez les invertébrés, parce que les vertères, des fois, sont très adaptés pour ce genre de choses. Alors là, leur cerveau, c'est plus ou moins. Il y a quand même une dizaine de neurones, mais alors là, tout le monde s'en tape, hein, c'est tous les pêcheurs. Mais on commence à nous emmerder quand on va à la pêche, hein, parce qu'il faut des hameçons usage unique, et puis l'asticot, il faut le mettre d'une certaine façon, et puis le poisson. Et... Alors, je sais que dans les pays nordiques, les pêcheurs ne peuvent plus attraper les poissons, il est assez hameçon. Bon, donc, même cette voie-là est en quelque sorte difficile pour expérimenter, alors celle qui est plus recommandée, c'est de modéliser les comportements sur ordinateur. Alors on fait des manips sur l'écran en faisant observer tous les paramètres, et puis une fois qu'on a trouvé à peu près ce qu'on cherche, alors à ce moment on va vérifier si ces données trouvées par le calcul sont cohérentes avec ce qu'on pourrait observer sur la ligne. Voilà, et donc du coup on a diminué de 10 fois le nombre d'animaux. Voilà. Mais c'est un gros problème pour les labos, parce que ce qui coûte cher, c'est justement l'expérimentation animale. Or, dans la loi, on est obligé d'expérimenter pendant 3 ans ou 5 ans sur les animaux, démontrer que ça ne provoque pas de troubles ni sur le cœur, ni sur le gésier, ni sur le prognon, ni sur rien. Or, en gros, et bien entendu, on a des surprises, parce qu'il y a des fois, ça marche très bien chez l'homme, ça marche pas quand même. Tout à recommencer. Alors, bien entendu, comme je vous l'ai dit, le plus simple, c'est que le tout vide qui a l'idée s'expérimente sur lui-même. Ils sont pas fous. Ça marche au début, parce que c'est Pasteur et les autres, et encore, je suis pas sûr qu'ils soient injectés de la vaccin d'arrache. Hein. Bon, il a bien pris un gamin à sa femme pour ça. Bon, alors, et puis ensuite, on a utilisé, comme je vais vous le dire, peut-être des prisonniers. Bon, les comités d'éthique sont contre, bien sûr. Alors, surtout depuis Nuremberg. Hein. Et puis, alors, s'ils se prennent original, hein, pour s'emmerder à payer des volontaires, des forces, pas possible, alors que pour $1, vous achetez autant d'Indiens que vous voulez, quoi. Oh, d'Indiens des Andes, hein. Amérindiens. Il y a un cynisme, pas possible. C'est-à-dire, les règles éthiques sont liées à la juridiction, donc, ce qui est interdit, n'est pas du tout interdit, ils ont passé la frontière du Mexique, hein, et puis encore moins du Paraguay, ou etc. Et donc, du coup, les expérimentations se font en dehors des législations occidentales, qui ont délocalisé. Il n'y a pas que la construction de l'agneau. Il y a aussi l'expérimentation humaine pour avoir des assurances comme quoi les médicaments qui ont ne sont pas mortels. Et alors, quand on a pu démontrer, tu me reprends si je pousse un peu, quand on a démontré qu'il n'était pas mortel, alors à ce moment on a le droit de postuler pour l'autorisation de mise sur le marché de la lune. On l'accorde bien volontiers, on a les yeux fermés, parce que l'AFSA est financé par les gros pharmaceutiques, qui nomment les experts, et alors leur propre chercheur. Bon, tout va bien. Et bien sûr, à ce moment, on peut déposer les brevets. Mais les brevets, ça a une durée limitée.
Alors, donc, bien entendu, on expérimente, on enregistre tout ce qui se passe, ce qui se passe bien, ce qui se passe mal, et quand arrive, j'anticipe sur ce qu'on peut faire, ça découle de l'expérimentation. Quand on arrive à la limite d'âge du brevet, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il va devenir générique. Si vous voulez, il faut penser fort. Donc, on sort les dossiers avec tous les morts. Voilà. Et à ce moment, là, on ne peut pas utiliser ça parce que c'est mortel. Pendant 20 ans, c'était tout à fait inévitable. Enfin, tout à fait. Oui, c'est un cancer, d'accord, mais sans danger, quoi. Et puis, c'est juste quand on arrive sur la deadline, hop, d'un coup, vous pourrez tout voir ça. Alors, bien sûr, je vais vous fourguer un nouveau, là, qui vient de sortir. Mais lui, on n'a aucune expérience, sans aucun recul. C'est avec les vieux médicaments, c'est général, hein, quoi, psychopharmaco, avec les vieux médicaments, on sait, les rouries, on sait que, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, avec quoi il faut associer. Ou ne pas associer. Avec les nouveaux, on n'en sait rien. Plein pot, boum! Alors là, les cartons sont énormes. Alors là,
bon, voilà. Hein? L'expérimentation animale, ça permet d'avoir des certitudes bien passagères. Bon, alors,
arrivé là,
je vais essayer de vous raconter l'histoire qui va introduire l'idée de neuroleptique. Et puis, dans la foulée, l'idée de, je vais dire, psychotrope, et puis derrière, la discipline qui va vraiment se constituer, mais ça, sur l'espace de quelques années, 5 ans à peu près. Donc, on est en 1950, bien entendu, nous sommes encore les maîtres du monde, en tout cas d'une partie du monde, puisque nous avons un empire, et on a des bases situées un peu partout, dont une est très importante, bien placée, c'est Bizerte. Et à Bizerte, eh bien, il y a bien sûr, la fontaine marine et tout ce qui va avec, quoi. Et donc, bien sûr, il y a des médecins, et donc, il y a des médecins militaires, quoi. Voilà, bon. Des médecins militaires qui, la plupart du temps, n'ont pas grand-chose à faire en 1950. Hein. De temps en temps, quand même, bon, ils font quand même quelques opérations. Et dans ces officiers supérieurs, les centaures, quoi, en gros, qui ont eu leur galon d'officiers supérieurs, il y en a un qui s'appelle Henri Labourite. Voilà, alors, lui, il est chirurgien à cette époque, et de temps en temps, il doit faire des interventions chirurgicales, bien sûr. Et depuis quelque temps, il s'aperçoit que les bidasses en folie angoissent méchamment de passer sur le billard, comme on disait à cette époque. Voilà. Ils sont anxieux, et quand on a des patients anxieux, ça se passe pas très bien, quoi. Voilà, parce que le praticien lui-même est anxieux, hein, bon, on est dans la relation, en gros, et alors, Labourite essaye d'échafauder une théorie, d'essayer de comprendre pourquoi ils sont anxieux. Et à ce moment, il y a une théorie qui est en bonne presse, et c'est la théorie de l'état de choc. Alors ça va rester longtemps, puis je crois que c'est toujours en vigueur, hein, c'est-à-dire lorsqu'on est dans une situation traumatique, et alors bon, comme vous le disiez, les thérapies de choc, ça laisse entendre que justement on utilise le choc pour un oui, pour un non, c'est-à-dire on traite la plupart des maladies avec des rhumates de cheval, quoi. Hein. C'est-à-dire, on provoque un état de stress, hein, donc un état de choc. Et là, pour je ne sais plus quelle raison, Labourite pense que cet état de choc est entretenu par un neuromédiateur qu'on va redécouvrir par la suite et qui s'appelle l'histamine. Voilà, alors on dit, bon, alors, ces bidas sont en état de choc, donc il y a beaucoup d'histamine qui est libérée, et cette histamine renforce cet état de choc. Et peu de temps auparavant, on a eu la découverte d'une molécule qui s'est révélée être un antihistaminique. Et les antihistaminiques, vous les connaissez, c'est lorsque vous avez des personnes qui ont de l'asthme, bien entendu, l'asthme, c'est pas autre chose qu'une sécrétion d'histamine, mais alors cette fois au niveau des bronches, qui provoque la contraction des alvéoles pulmonaires, et le sentiment d'étouffer. Alors à ce moment, un antihistaminique envoyé par voie aérienne, hein, tout simplement, un petit spray, en gros, permet de dilater les bronches et de ce fait, la ventoline étant l'un des meilleurs exemples, tout de suite on respire mieux et donc ça permet de le comprendre comment ça fonctionne. Alors ce phénomène-là a valu à Daniel Bovet le prix Nobel, donc cet antihistaminique, et alors Laborite se dit, mais cet état de choc, peut-être que si c'est vraiment vrai qu'il y a une décharge d'histamine, avec un antihistaminique, peut-être qu'on pourrait régler cet état de choc, quoi. Alors, il essaye, bien sûr, la molécule en question qui vient d'être découverte par Daniel Bovet, et puis, bon, c'est pas très, très efficace. Mais il a compris qu'il y avait quelque chose à faire de ce côté-là, et ça va être général dans la psychopharmaco. Quand on a quelque chose qui marche, même un petit peu, on le conserve et on va essayer par la chimie de trouver des molécules qui ont la même propriété amplifiée avec moins d'inconvénients, pour faire très simple. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Bah, comme il connaît bien le milieu parisien, il écrit au groupe Rhône-Poulenc qui avait synthétisé la première molécule qui est donc... eu beaucoup de succès, cet antihistaminique, et il demande au chef de service, Mme Corboisier, de lui faire tous les antihistaminiques qu'elle pourrait synthétiser. Voilà, alors bon, ayant eu cette commande, elle le met en route, peut-être 10 personnes, pour trouver de nouveaux antihistaminiques. Et un mois ou deux après, elle en a une bonne dizaine. Et donc... elle envoie à Laborite des petits échantillons de ces antihistaminiques. Et à ce moment, 1951, Laborite reçoit ces échantillons et puis va faire un essai systématique au cours de l'anesthésie pour faire les interventions chirurgicales. Et donc, il essaye tous ces antihistaminiques dont la fonction antihistaminique est démontrée au point de vue chimique, mais maintenant il faut passer à la pharmaco. Et en fait, il n'y en a qu'un qui va être très efficace, c'est la phénothiazine. Voilà, alors, cette molécule, il l'utilise avec des barbituriques, et puis, alors c'est le dolosal, et puis ce phénothiazine, et puis encore un autre qui va se révéler être un benzodiazépine. Et c'est ce qu'il appelle le cocktail lytique. Lytique, ça veut dire qui casse l'angoisse. C'est anxiolytique, vous allez le retrouver tout à l'heure, ou la fois prochaine. Mais c'est un cocktail qui démolit l'état de stress, en quelque sorte, l'état de choc, disons, pour faire simple, en termes modernes. C'est-à-dire, les soldats qui doivent passer sur le billard ont l'injection du dolosal et du benzodiazépine traditionnel, plus la phénothiazine. C'est-à-dire, il y a 3 molécules. Et là, à ce moment, au lieu d'être anxieux comme ils l'étaient auparavant, ils sont euphoriques, ils sont détendus, ils sont souriants, et ils s'endorment, et du coup, Laborite est content, il dit, il prend la patte, boum, elle retombe, ça va, il est bien endormi, donc je coupe. Pas difficile, quoi, à ce moment. Et ça se passe merveilleusement bien. Le soldat se réveille, est en pleine forme, très rapidement. C'est-à-dire, Laborit s'aperçoit que le fait d'avoir combattu l'état de choc qui était avant l'intervention chirurgicale fait que l'intervention chirurgicale, non seulement elle se passe bien, mais que la récupération de l'intervention se passe merveilleusement bien. Alors il est au songe et il dit que ses patients expriment tous un sourire béat. C'est bon, alors ça a l'air d'être benêt, mais en fait, tant vous dire, au lieu d'être angoissés comme auparavant, en fait, ils sont contents, ils le remercient, ils le félicitent. Bon, il est heureux et ça a tellement bien marché qu'il obtient une permission, quoi, son chef de corps. Quoi. Alors qu'est-ce qu'il fait? Bah, bizarre, ça va bien, mais il rentre à Paris, quoi. Voilà. Et à Paris, bien sûr, il retrouve ses copains. Voilà. C'est-à-dire, il va à la Pitié-Salpêtrière, probablement, et puis au Val-de-Grâce, je ne sais plus très bien. Et, oui, à la Pitié-Salpêtrière, et là, il trouve un de ses grands potes, c'est Jean Delay. Voilà. Alors, il dit, qu'est-ce que tu fais? Oh, ben moi, je m'emmerde toujours, toujours, là, les agités du bocal, oulala. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, ben moi, alors, je viens de trouver un truc, c'est incroyable, quoi. Bon, ce qu'on fait sans arrêt quand on est à la cafette, quoi, hein, on discute de ce qu'on vient de faire, de ce qui nous motive, en gros. Alors, Laborit, donc, écoute Jean Delay, qui est quand même vraiment déprimé, il dit, mais quoi, qu'est-ce qu'ils ont, tes agités? Il dit, j'ai beau tout essayer, rien n'y fait. Voilà, ils hurlent, ils se démènent, des fois je suis obligé de les attacher. Bon, alors, bien entendu, Laborit fait une connexion. Il dit, ben voilà, tes agités, finalement, sont en état de choc. Or, moi, j'ai des patients qui étaient en état de choc, ça se passait mal. J'ai trouvé un remède miracle. Tu devrais essayer. Ah bon, quoi? Alors, il explique le coup de sa théorie à la con, d'état de choc, d'histamine, d'antihistaminique et de phénothiazine. Alors, bon, Jean Delay marque sur son carnet, bon, voilà, et puis combien? Oh, ben, 10 mg, hein, et puis voilà, bon, voilà. Et le lendemain, Delay retourne dans son service, bien sûr, hein, et à ce moment, il arrive et il appelle son lieutenant, c'est Deniker. Pierre Deniker arrive, oui, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, écoute, voilà, il raconte le coup, quoi, voilà. J'ai retrouvé mon pote, Laborit, qui m'a raconté que, 10 mg phénothiazine devrait peut-être être, vaut la peine d'être essayé, en tout cas. Alors, tu vas dire aux infirmières de passer systématiquement tous les agités. Il n'y a que des agités dans le service, hein, il a un service d'agités. Bon, de leur donner systématiquement, dès demain, la première heure, la molécule en question, et puis à midi, rebelote, et 10 de der le soir, quoi, voilà. Et puis ensuite, il va jouer aux courses, hein, ou enfin, je sais pas quoi, parce que font les chefs de service, hein, en ce temps-là, en tout cas. Et le lendemain, bien sûr, Jean Delay revient dans son service. Et là, il dit, oh là, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de bizarre. J'ose pas dire un silence de mort, mais enfin, vraiment, le calme règne dans son service. Alors, c'est la première fois depuis 30 ans que ça se passe. Il va vite voir Deniker, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, écoute, ton truc, ça a été vraiment efficace, hein, tout de suite, vraiment, à midi déjà, ça allait bien, mais alors le soir, hein, comme des bienheureux, hein. Oh, ben, il dit, bon, ben, c'est bon, hein, demain, tu fais pareil. Et puis, toute la semaine, quoi. Ah, et pendant 15 jours, bon, problème. Problème, c'est qu'ils sont tellement calmes, les copains, qu'il est obligé de les laisser sortir. Hein, parce que c'est la règle. Hein. Mission accomplie, ils sont calmes. Donc, ils n'ont aucune raison de rester pourrir à la Pitié-Salpêtrière. Et donc, ils sortent. Le problème, c'est que les lits sont vides. Alors, il dit à Deniker, pas de quartier, hein. Tu vas la crier et puis tu rafles tous les agités. C'est pas compliqué, c'est comme pour les poissons. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, il y a le pavillon des entrées où la marée-chaussée, les pompiers déversent des cargaisons de personnes complètement délabrées qui ont été ramassées pendant la nuit, quoi. Et dedans, toutes les fois, alors il y a un crieur et qui dit, voilà, un agité. Acte de Niger lève la main, dit, je prends. Un agité, je prends, etc. Il laisse passer tous les autres, les gâteux, les schizophrènes, machin, bon. Agité, je prends. Voilà. Il bourre son service à nouveau et pendant 15 jours, pic pic, comme la mère Bachelot, toc toc. Bon, il peut plus en garder, quoi. Et finalement, on est à court de munitions, quoi. Hein, c'est-à-dire, bon, bien entendu, il passe les commandes, hein, Mère Courvoisier, ou affluer les demandes de machin. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ils se réunissent avec Denis Kerr à nouveau, et puis, bon, là, cette fois, là, on tient un gros poisson, quoi. Hein. Alors, c'est vrai que là, il n'y a aucune échappatoire. Il faut qu'on le publie, et il le publie, 2 mois après, le service de Delay et de Niker est célèbre dans toute l'Europe, quoi. Et il y a déjà des demandes de faire des stages pour voir ce truc miracle, quoi. Des agités dont on ne savait pas que faire depuis des millénaires, soudain, c'est simple comme bonjour, ils font un petit stage de 15 jours à l'hôpital, et puis ensuite, le problème, c'est de les faire sortir et puis de les revoir de temps en temps pour leur refaire une piqûre pour pouvoir couvrir le dosage, quoi, en gros, voilà. Alors, Delay, qui donc est un intellectuel très fin, commence à dire, bon, c'est bien ça, alors, l'agitation motrice, en gros, est réglée, mais peut-être qu'il y a d'autres agitations qui pourraient peut-être profiter de ce traitement, quoi. Et il pense aux agités vraiment du bocal, au sens de Sartre, quoi, c'est-à-dire donc ceux qu'on appelle les fous, quoi, à cette époque, quoi. Et en termes modernes, on pourrait dire les schizophrènes, quoi, les psychotiques, en tout cas. Et donc, il commence à dire à Denis Kerr, si tu veux, vu qu'on a réglé la question des agités, à la criée, demande plutôt des psychotiques, quoi. Hein. Et donc, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a des suspicions d'être psychotique, Denis Kerr dit « Je prends !» Et il bourre le service. Alors cette fois, il dénature complètement le service. Et il remplit de psychotiques. Les psychotiques ont droit au même traitement. Et les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Les hallucinations, au bout d'un mois d'imprégnation, c'est un plus long, là, un mois, commencent à tomber. Et puis les délires, bien construits, aussi, se dissolvent aussi. Voilà. Alors au bout de 6 mois de cette expérimentation grandeur nature, il décide à nouveau de récidiver avec un article, quoi, cette fois. Mais alors cette fois, c'est plus de l'agitation motrice, mais c'est vraiment de ce qu'on appelle les psychoses, c'est-à-dire donc les hallucinations et les délires, qu'on ne savait absolument pas comment les attaquer, il publie que, ça résiste pas à la phénothiazine, 10 mg par 3 fois par jour, quoi, en gros. Alors là, c'est un tsunami intellectuel, quoi, hein, c'est-à-dire la célébrité de la psychiatrie française et parisienne plus particulièrement monte au firmament, quoi, voilà, c'est-à-dire là, alors c'est une notoriété internationale. Et bien entendu, tout le monde veut venir à Paris pour voir ce miracle. Quoi. C'est un miracle. Alors, bien entendu, Delay continue à cogiter et commence à mettre en relation tout ce qui a déjà été un petit peu publié, des nouvelles molécules, parce que, c'est ces années fastes de 52 à 56. Il y a énormément de molécules qui sortent. Et donc, bien sûr, les chimistes expérimentent sur les animaux, et puis dès qu'il y a quelque chose qui pourrait rappeler un impact sur le comportement, ils passent, en gros, au psychiatre, en disant, on a un truc, ça se pourrait que ça vous intéresse, regardez. Alors les biochimistes regardent un peu plus en détail, font différents tests, des tests vraiment plus que rudimentaires, mais effectivement, on commence à avoir plusieurs familles de molécules qui vont avoir des effets dans des dimensions tout à fait inattendues. Voilà. Et donc, à partir de 1956, Deley, suivi de Denis Kerb, essaye d'établir une classification de ces nouveaux médicaments. Et quand on dit nouveaux médicaments, médicaments de l'esprit, c'est bien entendu à regarder par rapport aux thérapies de choc. Hein, au lieu de faire des électrochocs ou bien des comas insuliniques, là, on utilise des molécules qui vont avoir peut-être un impact. Alors bon, là aussi, on traite le symptôme, on ne traite pas la cause, hein, en tout cas pour la psychose. Hein, c'est, les patients, toujours maintenant, ne sont pas guéris. Simplement, au lieu de croire au Père Noël, ils ne manifestent rien, quoi, ou une indifférence, ou je ne sais quoi. Hein, c'est pas encore torché. Mais toujours est-il que Denis Kerb commence à dresser les grandes lignes de ce qu'on va appeler les psychotropes, c'est-à-dire les médicaments de l'esprit, il va les appeler psychotropes. Alors, qu'est-ce que veut dire psychotrope? Donc, psycho, bien sûr, le préfixe, c'est psyché. Psyché, c'est l'appareil psychique, c'est-à-dire l'esprit, en gros. Et puis, tropos, ça veut dire qui agit sur l'esprit. Voilà, les substances chimiques qui agissent sur l'esprit, il les appelle psychotropes. Alors, bon, c'est pour ça que je reste fidèle à ce nom. Il y a beaucoup de cache-sexe, maintenant, des molécules psychoactives, ou je ne sais pas quoi. Bon, j'ai mieux resté attaché à Deley que les nouvelles acceptations, mais bon, ça, laissons tomber. Donc, ce que Deley essaye de faire, c'est une classification qui soit rationnelle, et quand même, il a un modèle en tête. Et ce modèle, eh bien, il est donné par un de ses anciens profs de psychiatrie, et c'est Pierre Janet. Et Pierre Janet, c'était un psychologue qui était très célèbre à cette époque, là, 1900-1950, qui était un peu le rival de Freud, et qui donc avait fait des classifications de l'activité mentale, donc de l'appareil psychique. Et donc, Deley se sert de cette classification comme point de départ, comme idée principe, et c'est ce que je voudrais vous expliquer maintenant pour mettre en relation avec les différentes molécules qui viennent d'apparaître et qui sont prometteuses, et puis, pendant qu'on y est, une colonne de plus avec les neuromédiateurs qui vont être mis en cause dans les mécanismes par lesquels on peut expliquer l'action de ces molécules. Voilà, alors j'ai un tableau qui est un peu long, mais ça devrait se digérer. Alors voilà, c'est la classification des psychotropes. Un embryon de classification. Donc là, on a deux critères, ou trois critères, à intégrer. Alors, le tout premier critère, c'est l'action sur l'activité mentale. Voilà, l'activité mentale. Comme vous pouvez le voir, hein, il y a donc trois catégories. Les psycholeptiques, d'une part. Alors, ça, c'est le terme de Deley, je vais vous l'expliquer. Le terme, dans le langage populaire, c'est sédatif. Sédation, c'est vraiment, un petit peu endormissant. Et l'action de ces psycholeptiques, ou sédatifs, c'est de diminuer l'activité mentale. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis une flèche là. Ici. Donc, psycholeptiques, psycho, bien sûr, c'est toujours la psyché, et lepto, ça veut dire, comme kleptomane, hein, c'est prendre et attacher, et, je veux dire, maîtriser. Maîtriser la psyché, sous-entendu, maîtriser la dynamique de l'appareil psychique, c'est-à-dire il est trop agité, et donc toujours cette idée-là que je viens de vous expliquer, on va essayer de le contraindre, de lui mettre la camisole, en quelque sorte. D'où le terme de psycholeptique qu'il propose, qui a été retenu, puisque c'est international. Et puis, bien entendu, deuxième catégorie, c'est rigoureusement l'inverse. on a le moral dans les chaussettes, comme on dit, et là on va utiliser un phénomène, enfin des molécules qui vont être des psychoanaleptiques. Dans notre langage populaire, on dit des stimulants, vous les connaissez, hein, bien sûr, vous les utilisez, et ça va avoir comme effet une augmentation de l'activité mentale. Donc, psychoanaleptique, c'est facile à attraper, hein, vous prenez psycholeptique, et vous y rajoutez ana. Donc, bien sûr, toujours la psyché, mais au lieu d'être captive, cette psyché, ana veut dire l'inverse, c'est-à-dire va s'emballer. Donc, du coup, on va fouetter l'appareil psychique, qui, au lieu d'être, parlons français, au lieu d'être complètement déprimé, raplapla, boum, vous allez péter le feu. Bon, c'est facile à comprendre, ça, hein, voilà. Et donc, bien entendu, ces deux familles sont antinomiques. Voilà, hein, puisque l'une abaisse l'activité mentale, l'autre l'augmente, l'exacerbe, en quelque sorte. Et puis, Deleuze, dans sa grande sagesse, a déjà anticipé une autre famille, qui est connue depuis l'Antiquité, bien entendu, et qu'il appelle psychodysleptique. Alors, toujours psycho, bon, on n'a pas trop de difficultés, la psyché, l'appareil psychique, leptique qui prend ou qui laisse, et dys, ça veut dire qui fait varier, qui modifie la psyché, c'est-à-dire, pour faire simple, qui la met sur un nuage, quoi, hein. En gros, on va voir quelques éléments, c'est-à-dire, bon, qui perturbe, alors bien sûr, Si c'est le ministère de l'Intérieur, il va dire qu'il perturbe. Si jamais c'est le babacou, il va dire cuit les petits oiseaux, quoi. Hein. C'est tout à fait une autre optique. Mais voilà, le 10 veut dire que voilà, ça glisse, hein, quand il y a du verglas, quoi, en gros. Hein. Voilà, donc on a trois grandes catégories qui correspondent à finalement l'impact sur l'activité mentale. Voilà, et ça, c'était Janet qui avait donner cette première classification. Mais Janet avait rajouté, chacune de ces trois catégories, on peut utiliser deux critères supplémentaires. D'une part, l'action sur la vigilance, le sommeil en gros, hein, ou l'éveil, hein, et puis l'action sur, finalement, l'humeur. L'humeur, c'est-à-dire la joie de vivre, hein, nos sentiments face au monde. Voilà, alors, automatiquement, Deleuze a dit, ben voilà, il y a les psycholeptiques, soit, eh bien, j'en fais deux catégories, les sédatifs de la vigilance, les sédatifs de l'humeur. Voilà, c'est simple bonjour, et effectivement, ça colle, il a assez de molécules pour justifier cet élément. Alors, bon, prenons-les quelques-uns, là, voilà, les barbituriques, par exemple, ou les hypnotiques, ou bien les anticonvulsivants. Voilà, bon, alors, j'espère que chacun sait ce que ça veut dire, hein, les barbituriques, dès que vous avez dépassé les bornes, hein, là, il n'y a plus de limite, et ça a donné, dans les années, ces années 50, on les connaît, à Hollywood, ça a donné des suicides en rafale, hein, puisque les artistes se shootaient au barbiturique pour tout un tas de raisons, et du coup, c'était une catastrophe qui a amené à l'interdiction, ou alors en tout cas un contrôle sévère. Hein. Donc là, pour ce qui est de quand vous avez barbiturique dans l'esprit, vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire que d'être psycholeptique. Hein. C'est vraiment peut l'amener, la psyché, à zéro, presque, à 1, ou 0,5, ou 0,01. Si jamais vous dépassez un petit peu les bornes, là, vous avez bloqué tout, absolument tout, aussi bien les centres respiratoires que les centres cardiovasculaires. C'est ça que ça veut dire. Et là, à ce moment, ce n'est pas une TS, c'est un suicide. En passant par le coma. Voilà. Et c'est pareil pour les hypnotiques, mais un peu moins fort. Ça va être des benzodiazépines, on les verra. On les a un petit peu aperçus avec le sommeil. Ça vous plonge dans le sommeil. Sans difficulté, bon ben voilà, vous retrouvez à ce moment que ce sont bien des sédatifs plus ou moins forts et l'activité mentale et qui est diminue. Et les anticonvulsions, ben c'est bien entendu, quand vous avez l'épilepsie, vous avez une surexcitation qui se généralise au sein du cerveau, et bien entendu, la tendance des collègues qui sont médecins, ben, c'est d'essayer de retenir un peu cette excitation, de la mettre à genoux, quoi, pour que la personne ne se fracasse pas la tête contre les murs, ne bouffe pas la langue, et puis, etc. Enfin, bon, hein, c'est vraiment cette idée de psycholeptique qui doit être à peu près claire. Et bien entendu, la dernière colonne, bien sûr, on l'a vu l'an dernier, mais je pense qu'il faut faire des piqûres de rappel, c'est comme pour la grippe A, hein. Je crois que de temps en temps, il faut refaire un petit retour de foulée. C'est bien entendu le GABA qui explique l'essentiel de l'action des barbituriques, des anticonvulsivants et de beaucoup d'autres choses, quoi. Bon, alors, une fois qu'on a compris cette première famille des sédatifs, bah, il suffit de faire la même chose. Ça c'est pour la vigilance. Hein. Bon, j'espère que c'est à peu près clair. Bien sûr, la deuxième sous-famille, ce sont les sédatifs de l'humeur. C'est la façon de s'appréhender soi-même, d'appréhender les autres, d'être en hallucination ou pas, euphorique ou pas, etc. Là, tout de suite, bien sûr, c'est la première catégorie qui a intéressé Deleuze, puisqu'il l'avait expérimenté, c'est ce qu'il appelle les neuroleptiques. Et donc la phénothiazine en question, qu'on va appeler le Lariactyl dans la pharmacie, c'est le chef de file des neuroleptiques. Alors, neuroleptique, c'est encore la même chose comme structure, hein, puisque là, vous savez que Deleuze est un homme de lettres, hein, non seulement un psychiatre hors pair, mais en plus, il écrit divinement bien, et donc, il reste fidèle aux racines grecques, et donc, il appelle ça neuroleptique. Leptos, je capture, cette fois, le neurone. Neuroleptique, c'est-à-dire, bon, voilà, je verrouille ces hallucinations et ces délires. Et alors, cette première famille, qu'on peut appeler aussi antipsychotique, alors ça, ce sont les Américains qui utilisent le terme. Nous, en général, on reste fidèle à l'auteur français, mais bon, pourquoi pas, il faut savoir que antipsychotique est aussi très explicite. Hein, donc, bien entendu, la plupart des neuroleptiques joue sur le métabolisme de la dopamine. On retrouvera ça. Et puis, toujours dans les sédatifs de l'humeur, on a une deuxième classe qui commence à déjà percer par un ou deux candidats à l'époque, en 1956, et puis qui ensuite va leur proliférer. C'est ce qu'on appelle les anxiolytiques. Et les anxiolytiques, comme leur nom l'indique, ce sont des substances qui vont liser. Analyse, hein, comme analyse. Analyse, ça veut dire que on va casser la molécule pour savoir comment elle est constituée. Donc vous retrouvez lise. Donc lytique, c'est la même racine. On va casser quoi? L'angoisse. Voilà. Les anxiolytiques sont donc des substances qui vont permettre de combattre les différents types d'angoisse courantes chez, on va dire peut-être pas les psychotiques, mais en tout cas les névrosés, quoi, hein, classiques. Voilà, alors à nouveau, on va retrouver notre vieille connaissance, là, du GABA, là, à nouveau. Voilà, alors ça, c'est donc les psycholeptiques. Alors là, maintenant, le même type de mécanisme est proposé par Deleuze pour fragmenter la famille des psychoanaleptiques. Stimulant de la vigilance, stimulant de l'humeur. Voilà, alors, stimulant de la vigilance, vous les connaissez tous, j'espère, en tout cas la première famille, ce sont les alcaloïdes. Donc, alcaloïdes, bon, le terme est assez simple, puisque vous reconnaissez le vieux mot d'alcali, et alcali, ça veut dire, une amine primaire la plupart du temps, et oïde, donc quelque chose de basique, hein, pour faire simple, et oïde, c'est qui a la forme de l'alcali. Donc alcaloïde, ce sont des molécules qui sont extraites ou qui sont contenues dans un certain nombre de végétaux que vous connaissez tous, bien sûr. Le premier d'entre eux, c'est le café, donc la caféine. En gros, c'est l'alcaloïde peut-être le plus consommé actuellement en France, en tout cas. Le deuxième, c'est la théine. Ouais, c'est deux molécules très proches, la caféine et la théine. Et puis enfin, la troisième, c'est la théobromine. Vous le connaissez aussi. C'est bien sûr le principe actif du chocolat. Et donc, le thé, café et chocolat, bon, comme dirait Lolo Brigida, bon, il n'y a pas de mal à ça, quoi. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, quoi. Hein. Je connais pas de reproche qu'on puisse faire à cette compagnie de malfaiteurs, quoi. Hein. En gros, bon, simplement, faut pas pousser pas trop loin le bouchon, quoi, parce que sinon, vous pouvez être un petit peu à cran, hein, si vous carburez au café, ça vous donne les dents jaunes si vous prenez trop de thé fermenté, et puis le chocolat, vous risquez de prendre quelques kilos, mais enfin bon, vous prenez aussi du magnésium et tout un tas de vitamines, sans quoi, bon, voilà, c'est pas compliqué. Bon alors, si on pousse un peu plus loin les alcaloïdes, on a une alcaloïde qui est très particulière, qu'on appelle l'éphédrine, qui est là aussi extrait d'une plante qui s'appelle Ephedra, qui pousse en Chine, et donc cette Ephedra sinensis donne l'éphédrine, et l'éphédrine, elle a un impact sur l'éveil, quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire ça, vous bouffez de l'Ephedra, ou de l'éphédrine, et vous restez réveillé pendant 2 jours, quoi, en gros. Hein. Donc du coup, vous avez les yeux exorbités, vous n'arrivez pas à fermer l'œil. Et alors, ça a donné cette famille qu'on appelle les amphétamines. Voilà, alors donc, bien sûr, vous retrouvez amine, qu'on a déjà vu l'année dernière, puis amphé, ça doit être la déesse de l'éveil, hein, ou quelque chose comme ça. Et donc, ça a été décliné de différentes sortes. Pour les gens de notre génération, il y a un mot à se rappeler, c'est le maxiton, par exemple. Bon, alors tout de suite... ça vous donne une idée, et au passage, je sais que mes collègues étaient en médecine, donc toute la période des examens, ils se gavaient de maxiton, parce que à cette époque, c'était facile. Ils allaient à l'infirmerie, puis ils pillaient la réserve. Et donc, alors bien entendu, ça veut dire que pour nous en science, on avait à peu près ça de cours à prendre, quoi, intelligemment. Tandis qu'ils avaient ça de cours à apprendre, mais par cœur. Voilà. Les tuyaux, quoi. Alors, ils les tombaient dans la nuit, en gros, pour pouvoir bosser toute la nuit, bien entendu, carburaient au maxiton. Et alors, quand on se retrouvait à l'époque à la gel, alors c'est passé. Ah oui, mais alors, me demande pas rien, parce que maintenant, ça y est, c'est fini, hein, j'ai craché mon venin, je me rappelle plus de rien. Donc, les gens de ma génération qui sont médecins, un appareil psychique un peu délabré probablement parce que alors je sais que les générations qui les ont remplacés ont toujours aussi des amphétamines. Bon, mais alors ça a amené tellement de grabuge que bien sûr c'est devenu interdit, quoi, en gros. Alors bien sûr les chimistes ont continué à chercher de nouvelles molécules et on en a trouvé des nouvelles. Alors bon, là, à ce moment, bien sûr, la mode, c'est de parler en américain, et donc, design drugs, et la plus célèbre d'entre elles, c'est l'ecstasy, mais on en parlera plus tard. Voilà, alors, donc, que ce soit n'importe lesquels de ces stimulants de la vigilance, eh bien, on a toujours affaire au métabolisme de la noradrénaline, d'une façon ou d'une autre, puisque la noradrénaline, que bien souvent on appelle à tort adrénaline, une décharge d'adrénaline, comme on dit, en fait c'est la noradrénaline, c'est l'hormone du stress, et donc de l'éveil, de l'hyper-éveil, et donc dès qu'on utilise beaucoup d'alcaloïdes, mais surtout les amphétamines ou toutes ces nouvelles substances, on booste en quelque sorte la production de noradrénaline. Voilà, ça c'est donc les stimulants de la vigilance. Eh bien, à côté de ça, on a l'autre famille que Deleuze avait déjà perçue, hein, parce qu'il y avait déjà les premiers essais, on va les voir pendant les séances qui viennent. Ce sont les stimulants de l'humeur.
Et là, on en a au moins deux grandes catégories, il y en a plus, mais prenons la première catégorie, ce sont ce qu'on appelle les antidépresseurs. Alors, comme leur nom l'indique, ce sont des substances qui vont essayer de contrecarrer la dépression. Voilà, alors, vous les connaissez, hein, tofranil, lanafranil étant les chefs de file, mais il y en a beaucoup d'autres. Et là, en gros, pour faire très simple, quand il y a dépression, tout de suite, le chimiste ou le neurochimiste a les oreilles qui se pointent parce que on sait toujours que la dépression est toujours plus ou moins liée, toujours plus ou moins corrélée à une chute de la production de sérotonine. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est déprimé qu'on a moins de sérotonine ou bien est-ce que c'est parce qu'on a moins de sérotonine qu'on est déprimé ? Je vous laisse expérimenter, mais en tout cas, voilà, il y a un parallélisme assez massif, et donc les antidépresseurs, de près ou de loin, viennent en quelque sorte remonter les bretelles à la sérotonine, bien sûr. Donc le raffet, les noyaux, les sept noyaux du raffet sont stimulés par les antidépresseurs, c'est ce que ça signifie. Voilà. Et puis à côté de ça, on a une autre famille qu'on appelle les régulateurs de l'humeur, et que, en gros, on utilise pour un certain nombre de troubles mentaux, qu'on appelle la maladie, enfin la psychose maniaco-dépressive, PMD en quelque sorte. Alors il y a différents éléments, on rentrera dans les détails. Là, je vois qu'il y a une faute d'orthographe. Non, le I est inversé avec le U. Le tout premier régulateur de l'humeur qu'on ait trouvé, ce sont les sels de lithium. Voilà. Et ces sels de lithium, c'est une histoire compliquée, je vous raconterai, mais ça a été assez mouvementé pour mettre au point le protocole de dosage. Mais ces sels de lithium ne peuvent pas ne pas rappeler ce qui s'est passé dans l'Antiquité, et en particulier avec les Romains, qui avaient des stations balnéaires, ou je ne sais quoi, où on allait prendre les eaux dans certains lieux, justement pour les gens qui avaient des troubles de l'humeur, là, comme ça, qui faisaient des psychoses maniaco-dépressives. Et quand on a fait l'analyse de ces sources thermales, de ces cures thermales que les Romains utilisait, on a trouvé des sels de lithium dans ces eaux. Voilà, donc il y a assez longtemps qu'on les utilise, même si on ne savait pas comment ça fonctionnait. Maintenant, c'est toujours pas très clair comment ça fonctionne. Mais... Voilà, alors, bien sûr, là, on laisse tomber, enfin, Delay laisse tomber Janet et prend plutôt un chimiste allemand, Levin, à ce moment, qui a travaillé sur ces substances que dans le langage courant, on appelle les drogues, en gros, pour faire très simple, hein, les psychodysleptiques. Alors, première catégorie, on les appelle les euphorisants. En gros, alors vous les connaissez aussi, plus ou moins. Le tout premier de ces euphorisants, c'est l'alcool. Voilà, et l'alcool joue de différentes façons, mais bien sûr, c'est un excellent solvant. Et donc, on sait qu'il y a quelque chose du côté des solvants, on y reviendra, mais alors, dans 3 ans, quoi. Parce qu'entre-temps, il va falloir voir les autres. Le deuxième, c'est l'éther. Et donc, là encore, c'est un des meilleurs solvants, encore meilleur que l'alcool. Voilà, il se trouve que. Et bien sûr, alors dans les années 50, beaucoup se shootaient à l'éther, et puis ça a passé, quoi, voilà. Et alors, avant 1950, on les appelait les éthéromanes, quoi. Donc, bien sûr, maintenant, l'éther a presque disparu des officines, et donc, du coup, les éthéromanes sont bien malheureux, quoi. Il faut se rabattre sur d'autres solvants, et bien sûr, vous les connaissez, ces solvants. Ce sont les solvants industriels, ce qu'on appelle les colles et les vernis. Et là, malheureusement, ce sont bien souvent des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens pour se shooter.
et qui utilisent ces solvants. Mais comme leur nom l'indique, les solvants, ben, ça dissout, et ça dissout les graisses. Or, bien sûr, comme c'est sniffé, reniflé en un mot, bien sûr, ça dissout la muqueuse nasale, en gros. Et du coup, au bout de deux ou trois passages de ces bouffées, bien sûr, vous pissez de sang, quoi, en gros. Hein, voilà, et du coup, ben, c'est pas terrible pour la santé. Quoi, voilà. Mais donc, vous les repérez au premier coup d'œil, hein, c'est benzène, toluène, xylène et autres, et vous les subissez toutes les fois que vous faites repeindre vos appartements et autres, ou que vous peignez vous-même, machin, et que, voilà, et si c'est pour vous, c'est bien sûr les gens qui travaillent, qui à longueur de journée sont dans ces vapeurs, qui, bon voilà, c'est euphorisant certes, mais c'est assez ravageur, du fait que toutes nos cellules sont constituées de membranes lipidiques, et les lipides sont solubles en toute proportion dans les solvants, quoi, par définition, et donc, voilà, à éviter à tout prix. À côté des euphorisants, on a une deuxième catégorie qui est très très sympathique, mais qui est pourchassée, bien entendu, d'autant plus pourchassée que c'est sympathique, c'est ce qu'on appelle les hallucinogènes. Alors, les hallucinogènes, comme le nom l'indique, ce sont des substances qui vont donner des hallucinations. Voilà, c'est des faits recherchés. Et bien entendu, c'est extraordinaire d'avoir cette possibilité de faire l'expérience hallucinogène. Au point que Tim Leary, dans les années 68, qui était prof de psycho pendant quelque temps au MIT, eh bien, prônait à ses étudiants de faire l'expérience hallucinogène pour justement savoir qu'est-ce qu'un psychotique ressent. Alors, bien entendu, il n'a pas traîné quoi, dans l'université en question. Et... Alors, bon, bah, il s'est fait jeter et du coup, il a fondé une religion qui adorait, en l'occurrence, le LSD, quoi, etc. Et quoi, aux États-Unis, comme vous savez, les religions ont droit de citer, que ce soit la scientologie ou le reste, ou les adorateurs du LSD. Alors bien sûr, ça intéressait bigrement la CIA, quoi, en disant, bon, on a des ennemis, et bien c'est facile, on va mettre du LSD dans les réservoirs d'eau, et ils vont triper comme des malades, et on va arriver, on va les ligoter, et on va pouvoir... Bon, voilà. Mais le problème, c'est que les bidasses en folie, c'est-à-dire les GIs, eux, ils devaient boire, et donc, du coup, ils allaient bien boire la même eau, et du coup, ils allaient triper, si j'ose dire, et donc, ils allaient peut-être comprendre ce qu'on leur faisait faire, et ils allaient peut-être se rebiffer, quoi. Donc, du coup, c'était pas viable pour eux. Bon, voilà, les hallucinogènes. Alors, bon, il faut quand même que je vous montre, quand même, c'est le plus beau fleuron de la psychopharmaco, hein. Je vais le tenir, là. Voilà. Donc voilà plusieurs catégories, on va retenir trois pour faire simple. La première, le THC, tétrahydrocannabinol, qui est le principe actif extrait de la marijuana, pour faire simple, hein, le chanvre indien, si vous voulez. Et donc, on a retrouvé par la suite... ce principe actif jouait tout simplement parce qu'il y avait un neuromédiateur qu'on a découvert à ce moment, l'anandamide. Alors, je vous en parlerai, mais beaucoup plus tard. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Et surtout pour les états de conscience. La deuxième famille, on va dire la mescaline, et puis éventuellement le FTP. Alors, la mescaline, c'est donc le principe actif du mescal, c'est-à-dire finalement du cactus mexicain, qui donne des hallucinations très douces, peut être très bien maîtrisées. Et puis alors, un produit complètement synthétique, là, le trou de boue, c'est le STP. STP, je vous fais grâce de son nom chimique, je vous donne juste l'acronyme. STP veut dire « serenity ». Tranquility and peace. Là aussi, les bornes peuvent être dépassées parce que si si avec cela vous pouvez triper pendant mettons 2 heures ou 8 heures selon les doses et selon les substances, avec le skippy c'est pas du tout pareil, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, d'après les copains qui l'ont fait, ça devient épouvantable, quoi. 2 ans dans le bonheur, c'est trop. Mais paraît-il, ce qu'il y a de pire, c'est quand on redescend. Parce qu'on redescend, puis on remonte, et au bout d'un moment, tout le niveau de conscience se brouille, parce qu'on ne sait plus si on tripe ou si on ne tripe pas. Et paraît que là, c'est vraiment l'enfer. Voilà. À ne prendre qu'avec beaucoup de précautions. Donc. Et puis enfin, l'autre côté. Alors bien sûr, la mescaline, le slippy, jouent sans prise directe avec la noradrénaline. Là, sans aucune restriction. Et enfin, la troisième ligne, c'est la psilocybine, qui est donc le principe actif du psilocybes mexicanum, encore une fois, c'est-à-dire un champignon mexicain, qui là aussi est assez proche de la mescaline, enfin, bon, un petit peu différent, on en reparlera. Et puis surtout, bien sûr, le LSD-25, alors là c'est le top du top, et donc, on en reparlera. Encore une fois, et là, à ce moment, psilocybine LSD-25, c'est à ce moment le métabolisme de la sérotonine qui est fortement impliqué, on le verra en temps. Et enfin, troisième catégorie de ces psychodysleptiques, alors là, je crois que quand c'est possible, il faut en rester à l'écart, mais des fois ça ne l'est pas, et donc du coup, à ce moment, il faut utiliser avec parcimonie, ce sont les stupéfiants. Alors, quand on dit stupéfiants, non pas dans la police, parce qu'il y a une perversion, parce que la police est inféodée à la CIA, et que la CIA a un certain nombre de tares, mais quand on est disons, neurophysiologiste ou psychologue, stupéfiant, ça veut dire les seules substances qui donnent des difficultés, tout simplement parce que ça engendre une tolérance, premièrement, c'est-à-dire qu'il faut augmenter les doses, hein, on devient tolérant aux molécules, et ça c'est facile à l'expliquer, puis surtout une dépendance. Et donc, c'est en ça qu'il faut absolument y aller mollo, ne le faire qu'avec parcimonie, mais quand même, quand il y a un certain nombre de douleurs, on n'a pas d'autre méthode non invasive pour lutter contre cette douleur, et donc bah, là on peut le faire, mais sur prescription médicale, et ça change tout de sur prescription médicale ou bien son propre chef, ça n'a rien à voir, on en parlera. Donc bien sûr les opiacés, c'est-à-dire tous les dérivés de l'opium, donc du pavot, donc l'opium lui-même, la morphine bien sûr, qui est un concentré, le principe actif de l'opium. Et puis, une petite modification très simple, une acétylation de la morphine donne l'héroïne. Voilà. Alors ça, comme ce sont les produits dérivés de l'opium, on les appelle les opiacés. Donc on peut dire que ce sont des produits naturels. Mais produits naturels, ça ne veut pas dire que... voilà, avec l'héroïne, contrairement à ce que Freud pensait, non, voilà, Freud s'est trompé de temps en temps, heureusement. Mais autant vous dire qu'il a usé, abusé. Bon voilà, ça n'a pas tué, ben enfin si, ça l'a tué, mais à sa demande, Machour lui a fait une injection d'overdose, à sa demande, mais il souffrait trop de son cancer, des persécutions qu'il avait eues, il avait 83 ans. Bon alors, à côté de ça, donc bien sûr, là, ce sont les encéphalines, hein, qui sont les neuromédiateurs qui interagissent dans cette action. Ensuite, vous avez les opioïdes, c'est-à-dire les molécules qui ont la forme des opiacés, de l'opium, si vous voulez. Donc, ce sont forcément des produits synthétiques. Vous en avez un certain nombre qui permettent éventuellement de sortir de la dépendance des opiacés, la méthadone, par exemple. Et puis enfin, troisième catégorie, il y en a d'autres, hein, mais bon, donc, on va rester là, c'est justement des substances très proches de la cocaïne, extraite de la coca.
La plus redoutable que je connaisse,
c'est le crack, donc un sulfate de cocaïne, et qui là, d'après les collègues, dit que on devient dépendant à la première pipe, en quelque sorte. Il vaut mieux s'abstenir. À ce moment, c'est le métabolisme de la dopamine qui permet de comprendre ces éléments. Voilà, donc, en gros, c'est un très simple, les psychodysleptiques, euphorisants, hallucinogènes, stupéfiants, ça vous donne un petit peu un panorama de ce qu'on appelle les drogues. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais on ne peut pas tous les mettre sur un tableau. Voilà, et donc là, du coup, vous avez les principaux neuromédiateurs qu'on a déjà un peu entrevus et qui vont, en quelque sorte, expliquer comment ces substances peuvent agir sur le système nerveux, puisque ça va interférer avec les neuromédiateurs naturels. Bon, ben, voilà, je pense qu'il faut que peut-être je m'arrête. Je vais vous donner la parole. Et donc, ben, la semaine prochaine, on va essayer de rebondir en poussant plus loin. Alors cette fois, en essayant de commencer à déblayer les questions des neuroleptiques, et ces neuroleptiques qu'on appelle aussi des antipsychotiques, ben, bien entendu, ça veut dire qu'on va essayer de voir quels sont les troubles mentaux que ces neuroleptiques peuvent, je ne vais pas dire soigner, mais un peu juguler. C'est la schizophrénie, la psychose d'une façon générale, et plus particulièrement la schizophrénie. Voilà. Merci.